Bonjour à tous. Alors, je tiens tout de suite à préciser que je n'ai pas été le seul commissaire de cette exposition. J'ai été aidé en cela par Mathieu Pou, qui est professeur à l'Université de Lyon. Et en fait, c'est le cumul de nos deux savoirs qui a permis de nourrir considérablement cette exposition. En fait, on va vous présenter la genèse de la construction de ce projet. On fera donc une communication à trois voix. Dans un premier temps, je vous présenterai le propos, le contenu du projet, et pourquoi l'Institut national de recherche archéologique préventive a eu l'initiative de proposer une exposition sur les Gaulois, ainsi que les raisons qui l'ont amené à choisir la Cité des sciences et de l'industrie pour mettre sur pied cette exposition. Dans un second temps, Maud vous développera l'articulation opérée entre les savoirs archéologiques et scientifiques et le grand public. Et dans un troisième point, Pascal vous relatera les choix mis en œuvre afin de rythmer cette exposition. Ces différents points serviront de discussion et au débat après nos exposés. Le projet de créer une exposition sur le thème des Gaulois est né au sein de la direction du développement culturel et de la communication de l'INRAP. Cette volonté est apparue comme une nécessité du fait d'un renouvellement très important des connaissances sur cette période. Pour comprendre pourquoi les savoirs sur l'âge du fer ont considérablement évolué, il est nécessaire que je vous fasse un petit rapide historique de l'évolution de ces connaissances sur les sociétés gauloises. C'est la compilation de cette somme d'éléments qui a permis de forger le socle des thèmes développés dans l'exposition. Alors volontairement, mon discours restera celui d'un archéologue, spécialiste de l'âge du fer et plus particulièrement de la paysannerie gauloise, de manière à ce que vous compreniez bien le rôle, les articulations entre les uns et les autres. Donc c'est quelque chose d'un peu plus en amont de ce qu'on a vu ce matin, donc la naissance d'un projet dans un institut et les premières discussions pour commencer à le décortiquer, pour le présenter au grand public. Alors volontairement, donc mon discours restera celui d'un archéologue spécialiste, même si j'étais quelque peu perverti par cette expérience à la Cité des sciences et de l'industrie. Oui, j'ai dit que c'est qu'on était en coproduction. Donc en fait, le renouveau des savoirs sur l'âge du fer commence dans les années 1970 avec le développement de la photographie aérienne. On profite de l'année de sécheresse de 1970 pour réaliser de nombreux clichés aériens sur les campagnes gauloises qui révèlent ces vastes idéogrammes inscrits dans le sol et qui sont rapidement interprétés comme des fermes gauloises. Il faut attendre environ une dizaine d'années pour qu'on se décide à descendre de l'avion et mettre le pied sur le sol pour fouiller ces établissements. Alors ça va de pair avec le développement de l'archéologie préventive. En deux mots, l'archéologie préventive est cette forme d'archéologie qui intervient en amont des grands travaux d'aménagement du territoire, que sont les routes, les TGV, les autoroutes, et qui réalise dans un premier temps des diagnostics, ces tranchées que vous voyez régulièrement le long des routes ou même dans les campagnes, et qui vont révéler des sites. À partir de l'intérêt des sites qui sont ainsi mis au jour, l'État, le ministère de la Culture et les DRAC décident d'une fouille ou non. Alors vous avez ici un exemple d'une de ces fermes fouillées sur une très vaste superficie dans la Somme, qui est un site décapé sur une douzaine d'hectares. Donc on a un bouleversement total par rapport aux périodes antérieures de l'archéologie. C'est celle des possibilités d'intervention sur de vastes superficies qui nous permettent de mieux comprendre l'organisation des sites. Révélation de cette archéologie, c'est qu'il existe des sites presque partout. C'est un thème qui sera développé par Maud dans l'illustration de l'exposition. Vous avez ici simplement une cartographie des fermes gauloises pour le nord de la France, où on répertorie un site environ tous les 500 mètres, parfois moins dans des secteurs très denses, et à tel point qu'on peut suivre les tracés des autoroutes sur lesquelles ils ont été découverts à la seule vue des sites répertoriés. Donc simplement une illustration de l'un de ces sites qui montre très bien cette coévolution entre archéologie et aménagement du territoire. Vous avez un lotissement qui est cerné de petites routes. Et ici, J'ai pas de bagage. Et donc cet enclos, que l'on distingue très bien dans le champ voisin, dans lequel on pourrait mettre environ 8 maisons d'un lotissement à côté. Ce qui vous donne une idée de la superficie de ces sites. Alors ces enclos sont délimités par des fossés, qui sont certainement l'un des premiers signes marquants de la propriété. Et ces fossés peuvent être plus ou moins importants selon le rang hiérarchique des habitants. Donc ici, on a un fossé absolument monumental qui a été découvert à Paul dans les Côtes d'Armor, qui fait plus de 5 mètres de large pour plus de 3 mètres de profondeur. Le tout entourant une surface de plusieurs hectares, c'est vous dire les moyens mis en œuvre par les Gaulois pour délimiter leurs propriétés. Pour accéder à ces enclos, on a soit des interruptions simples de fossés qui permettent de rentrer directement dans l'espace habité, ou parfois des aménagements comme ici, qui sont faits sous forme d'aménagements de pierres sèches, mais on peut aussi avoir des ponts ou des portes assez élaborées de façon à contrôler les habitants, les visiteurs qui pénètrent à l'intérieur des enclos. À l'intérieur de ces enclos, on découvre de nombreuses traces d'habitation. Vous avez ici un relevé avec des mires humaines pour vous montrer un peu la monumentalité de certains bâtiments d'une construction gauloise. Alors évidemment, ces types de bâtiments ne sont pas communs. Il en existe des très grands et des plus petits. Mais ils ont été découverts par milliers, ce qui nous permet d'avoir une idée plus juste des formes d'habitation des Gaulois et qui controverse fortement l'idée de hutte au fond des bois. Pour savoir un peu comment ces chers Gaulois vivaient, on fouille soigneusement chacun des mètres de ces fossés qui livrent un abondant mobilier. Et ces rejets, en fait, nous renseignent sur la vie quotidienne, mais aussi sur les différentes hiérarchies observables dans cette société. Vous avez ici un exemple en cours de fouille où on peut apercevoir des céramiques, de la faune consommée, etc. Alors ces déchets, pour nous, c'est une source primordiale d'enseignement, d'indices. Les restes de faune nous renseignent évidemment sur les animaux élevés, consommés, mais aussi, on le verra un peu plus tard, sur leurs différents usages, tandis que les céramiques vont nous renseigner sur le vaisselier utilisé à l'époque gauloise. Donc tous ces sites, environ maintenant 740 fouillés pour la France septentrionale, permettent une synthèse réelle basée sur des statistiques, donc on rentre là dans les sciences dures et mathématiques, et qui permettent de proposer une hiérarchie de ces sites avec qui est graduée en fonction de la superficie des enclos, de l'ampleur des aménagements et des mobiliers que l'on découvre à l'intérieur. On a observé aussi qu'au cours de l'évolution de la chronologie, ces sites quittent les fonds de vallée, on est là autour de moins 300 avant notre ère, vont quitter les fonds de vallée pour s'implanter davantage sur les plateaux. Cette colonisation des plateaux est possible par les innovations technologiques qu'on enregistre à cette période, que vont être par exemple la faux, qui peut paraître un outil basique pour nous, mais cet outil apparaît réellement au IIIe siècle avant notre ère, et son invention suscite des modifications dans l'organisation des finages, mais aussi dans la gestion des fourrages et donc de l'alimentation du bétail, et par conséquent des aménagements différents dans les sites. Et bien entendu, cette fabrication d'outils sera à peu près les mêmes jusque la révolution industrielle dans les fermes du 19e. En complément, on peut dire aussi que c'est parce qu'il y a une extraction massive de minerais que ces outils sont possibles. Alors simplement, bien entendu, tout ça nous a posé la question de l'environnement autour de ces sites. Donc on a rapidement développé des protocoles d'études de l'environnement par des prélèvements systématiques de sédiments afin d'en analyser pas seulement la composition des sédiments, mais aussi de retrouver des macro-restes que vont être les graines qui sont conservées soit sous forme carbonisée ou imbibées quand elles sont en milieu humide, mais également destinées à l'analyse des pollens qui vont nous renseigner sur le couvert végétal, ou, comme ici avec l'exemple de ce pieu, sur le bois, la gestion du bois, la dendrochronologie, donc les possibilités d'adaptation, et les essences utilisées pour les différentes constructions. Ces différents matériaux vont être examinés en laboratoire et l'archéologie va ainsi s'approprier et travailler en collaboration avec de nombreuses autres sciences que vont être la carpologie, l'étude des graines, la palynologie, l'étude des pollens, mais aussi l'archéozoologie, l'étude de la faune, et plus récemment des phytolithes qui sont des éléments siliceux qui composent le corps des plantes. Vous en avez simplement un exemple de pollen ici et un exemple de petit charançon qui peut attaquer les stocks de céréales dans certains greniers de l'époque gauloise. Alors bien évidemment, tout ça va nous donner un panel de plantes cultivées à l'époque gauloise, parmi lesquelles le blé, l'orge, le millet, l'amidonier. Et on s'est rendu compte, alors là je vous montre quelque chose de volontairement un peu ardu, qu'il existe des spécialisations régionales, une évolution des cultures au fur et à mesure de l'évolution de la chronologie. Et par exemple, en Bretagne et en Normandie, on va davantage cultiver des légumineuses dans de petites parcelles, tandis que les régions nord et est vont cultiver à grande échelle des céréales comme le blé et l'orge. Pour les animaux, leur rôle ne se limite pas à la seule consommation que de la triade classique, le porc, bœuf et mouton, mais l'étude de ces restes animaux va nous renseigner sur le niveau de vie. L'élite consommera davantage de jeunes animaux et les meilleurs morceaux, tandis que les plus pauvres se contenteront d'animaux réformés, souvent en fin d'âge, et des bas morceaux. Les traces observables sur les os animaux, comme ici sur une phalange de bœuf ou la cheville osseuse, la corne d'un bœuf, renseignent aussi sur les efforts qu'ils ont produits durant leur vie, c'est-à-dire la traction animale d'animaux utilisés couramment pour les travaux agricoles. Alors simplement un petit graphique, un petit schéma qui résume un peu les différentes activités qui peuvent se dérouler au sein d'un établissement agricole. L'autre pendant de ce monde agricole est bien évidemment les villes. Et là, elles sont plus sous terre, mais aériennes, en surface. On les voit encore très distinctement dans notre paysage. Elles peuvent couvrir des centaines d'hectares et sont généralement ceinturées par de vastes remparts qui révèlent une réelle maîtrise d'aménagement du territoire avec des constructions qui s'adaptent aux différents reliefs et qui supposent l'intervention d'architectes. Alors, on a plusieurs types de villes et de remparts selon leur positionnement topographique, soit sur des hauteurs, soit au port de cours d'eau. Donc, il existe différentes formes d'aménagement de remparts autour de ces villes. Et pour l'expo de la Villette, on a retenu le plus classique, le Murus Gallicus, qui est aussi l'un des mieux connus. Pour les tombes, on les découvre aussi maintenant très, très, très régulièrement. Et toute la difficulté est bien évidemment de faire parler une tombe. Alors, on est à une période où pour la France septentrionale, c'est davantage d'incinération qui est mobilisée au niveau des traitements des défunts. Et donc, on n'a plus que quelques cendres qui représentent les défunts dans des petites fosses qui sont souvent creusées à même le sol et dans lesquelles on va déposer un matériel d'accompagnement qui, là aussi, va nous renseigner sur le statut des défunts. Donc, une graduation aussi très nettement marquée qui permet de relater, une fois de plus, la hiérarchie dans cette société. Alors, encore un petit peu. Alors, l'ensemble de ces points, pour récapituler, des sites presque partout, fouillés sur de grandes surfaces, l'évolution des méthodes de fouille, la prise en considération des données environnementales et des modes funéraires, constituent un socle d'idées neuves à faire partager au plus grand nombre. Le choix de coopérer avec la cité résulte d'une volonté de montrer que la recherche archéologique est une science en constante évolution et qui sait s'approprier d'autres domaines scientifiques afin d'être plus globale et de mieux comprendre les interévolutions entre l'homme et ses environnements. C'est donc ces différentes informations que nous avons livrées en masse à l'équipe de la Cité des sciences et sur lesquelles se sont basées nos premières discussions. Afin d'immerger chacun des membres de l'équipe de Maude, nous avons d'abord fourni une littérature la plus vulgarisée possible au départ et de plus en plus spécialisée au fur et à mesure de nos discussions, de façon à ne jamais céder en rien à la facilité. Alors, pour rendre intelligible chacune des étapes qui mènent d'un prélèvement de terre à la restitution d'un paysage, il a fallu décortiquer chaque phase de travail, et c'est la construction de ces différents éléments que Maud va maintenant vous présenter.
Donc, je suis arrivée sur ce projet, sachant que je venais de faire un projet sur l'alimentation qui s'appelait Bon Appétit, puis juste avant une exposition sur le zizi sexuel. Donc, à la Cité des Sciences, on a la particularité de... Déjà, nous ne sommes pas des experts du sujet. Et donc, j'ai été littéralement sidérée par le monde gaulois et par toutes les informations, sur, aussi bien sur les tombes, sur la palynologie, la carpologie. Enfin, en quelques mois, il a fallu donc s'approprier ce sujet pour répondre à une demande assez précise à la Cité des Sciences, qui était de faire une exposition très grand public, puisqu'on a, au bilan, on a accueilli 280 000 visiteurs. Donc, il fallait vraiment que cette exposition puisse convaincre des enfants de 9 ans et des adultes, des bacs plus 4, des bacs plus 5. Donc, je vais vous expliquer le déroulement de toute cette articulation, sachant que moi, de mon côté, j'avais un cahier des charges assez précis, puisque bien évidemment, il y avait des objectifs extrêmement clairs, il fallait bousculer les représentations et les idées reçues qu'on peut avoir sur le sujet. Donc, ce matin, on parlait d'évaluation. Nous, on a la chance à la Cité des Sciences de pouvoir faire des évaluations en amont, sur les représentations que peuvent avoir les personnes sur le sujet. Donc, savoir si c'est plutôt Astérix, Obélix ou plutôt des représentations qui seraient plutôt de la Troisième République. Donc, avec ces représentations, on construit notre propre discours tout en s'appuyant, bien sûr, sur le discours donné par les archéologues. Donc, un des autres objectifs, c'était bien sûr de partager des connaissances très concrètes, c'était de savoir, en fait, comment vivaient les Gaulois. Voilà, l'idée, c'était que les visiteurs, quand ils partent, ils sachent qu'ils ne vivraient pas dans des huttes rondes, qu'ils avaient des villes, que la naissance des villes est vraiment, synonyme en tout cas du monde gaulois, qu'il y avait des théâtres, qu'il y avait des sanctuaires, qu'il y avait des fêtes, qu'il y avait des cérémonies, et que le druide n'était pas l'image de Panoramix, mais un homme politique, un magistrat, un personnage extrêmement important, qui était un savant quand il n'était pas astronome, politique, etc. Donc, et tout ça, on devait donc présenter tous ces objectifs tout en présentant une collection d'objets pour vous peut-être, certains connaissent l'archéologie, pour moi totalement inconnue, qui était donc une collection d'objets. Je pense qu'on reviendra sur cette idée de vrai, faux, facsimilé, parce que ça nous a beaucoup, enfin on a beaucoup tourné autour de tout ça, et donc présenter des objets. Mais ce qui me paraissait important, comme on était à la Cité des Sciences, c'est que je ne souhaitais pas présenter des tombes et des objets sans les contextualiser, sans vraiment les intégrer à une muséographie. Donc on va dérouler tout ça. Et donc cette exposition, en fin de compte, c'était l'idée de la rencontre, je dirais, des sciences, parce qu'on est Cité des Sciences et de l'industrie. Donc un des objectifs, c'était aussi de partir des sciences de l'archéologie, de partir de tous les métiers que m'avaient présenté François et Mathieu, de palynologue, carpologue, archéozoologue, tout ça, pour pouvoir tirer par cette chaîne opératoire qu'est l'archéologie, pour pouvoir présenter, en fin de compte, les sociétés gauloises. Donc, la première chose, quand on est à la Cité, la première chose qu'on se pose, en fin de compte, dans le cahier des charges qui nous est donné, c'est convaincre ce public, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que 280 000 personnes vont venir voir une exposition en classe, pas en classe, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, des publics qui viennent, on accueille, la Cité des Sciences accueille beaucoup, beaucoup de personnes du 93 qui viennent par groupe scolaire de façon... C'est le musée qui accueille le plus de jeunes gens sur toute la région, enfin sur toute la France, si ce n'est que le Louvre accueille beaucoup de jeunes, mais des jeunes qui viennent de l'étranger. Donc, là, c'est qui a passé. Donc, très rapidement, enfin pas très rapidement, mais je me suis dit, et c'est un travail d'équipe, on était 5 dans notre travail. On s'est dit, on a vu peu à peu se dessiner l'exposition. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est une exposition de 1300-1400 m². Donc, c'est énormément de superficie. Et qui dit superficie, bien évidemment, dit qu'il va falloir construire ce récit, construire cette histoire. Comment on va raconter ce monde gaulois? Et donc, très rapidement, on a commencé à développer des séquences extrêmement rythmées, des séquences qui sont toutes des mondes différents, des ambiances différentes. Donc, la première partie était la galerie de portraits, qui est donc de l'historiographie qui mettait en scène, avec des tableaux, donc l'histoire des Gaulois et l'instrumentalisation qui en a été faite au cours de tous les siècles. Une deuxième partie de la fouille au laboratoire, qui est la plus grande partie, qui est la partie centrale, qui s'articule autour des ateliers, donc des sciences de l'archéologie. Et ces sciences de l'archéologie vont présenter le monde gaulois. Hein, on ne sait pas quelle est la libye de l'un ou de l'autre, mais en tout cas, les deux servent la même cause. Une troisième partie qui était davantage centrée sur les objets, ces objets qui sont extraordinaires. C'est vrai que quand j'ai vu les carnix gaulois, quand j'ai vu les casques cygnes, pour ceux qui ne les ont pas vus, on les a en diapo, ou le casque avec les cercles, on se dit comment c'est-à-dire qu'on s'interroge sur qui étaient vraiment ces Gaulois pour porter des casques de cette façon. Qu'est-ce qui faisait de ces casques? Pourquoi est-ce que c'était des casques de cérémonie? Donc toutes ces questions, comme on ne connaît pas, c'est vrai qu'on rentre dans le sujet avec beaucoup d'immersion pour pouvoir avoir une transmission qui soit le plus naturel possible. Puis une quatrième partie, j'avais envie de créer, enfin de, parce qu'on aussi on est bien sûr un EPIC, donc on est assujetti à bien sûr au marché public, donc on a fait appel à des candidats pour réaliser un film, et on voulait un film humoristique, un film décalé, un film drôle, qui permette de restituer le monde gaulois, mais non pas sous forme d'un documentaire classique, mais de façon décalée, on y reviendra avec Pascal. Et enfin, une dernière partie qui était, est-ce qu'on peut abandonner ces mythes? Est-ce que le mythe continue à continuer? Et peut-être qu'on garde ces mythes et on peut repartir avec des neuves, avec de nouvelles représentations. Donc, c'est posé, voilà, cette dernière partie. Donc, je dirais que c'est ce récit qu'on a donné, entre guillemets. Alors, donc, il y avait eu la première transmission, François et Mathieu, qui nous ont vraiment donné tout ce qu'on pouvait apprendre et rentrer. Puis après, on donne le bébé au scénographe. Et donc, le voilà.
Alors, bon, en introduction...
Tiens.
En introduction, et pour faire le lien avec ce que vient de dire Maude, bon déjà, je crois qu'en tant que scénographe, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on matérialise le projet qui est émis sous la forme de ce qu'on appelle un programme, mais que moi, je préfère appeler scénario, parce qu'on a vraiment affaire à une sorte de composition. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une dimension déjà artistique dans le fait d'écrire un scénario comme celui qui vient d'être décomposé. Donc cette traduction des connaissances qui sont élaborées dans les laboratoires d'archéologie deviennent effectivement une véritable expérience à vivre pour le public grâce à un très gros effort de médiation. Et nous, en fait, on matérialise ça, c'est-à-dire que jusqu'à... ce que Maude, par exemple, organise une consultation qui va intéresser plusieurs cabinets de scénographie, à l'issue de laquelle un cabinet sera choisi, eh bien, il y a l'idée de transmettre ce travail amont. Et pour nous, ça compte beaucoup parce qu'il se trouve que bien souvent, nous ne trouvons pas les bonnes formes de cette transmission. C'est notre premier effort de transmission, finalement, c'est le désir de l'institution de faire quelque chose qui est tourné vers un public, d'ailleurs qu'on souhaite émanciper, libre, autonome, responsable. Et du coup, il y a un enjeu fort là, dans l'idée qu'à un moment donné, l'institution va s'adresser à des gens comme nous, qui sommes des plasticiens, pour véritablement faire œuvre de transformation et de rendre concret ces idées et ces partis pris. Du coup, je crois qu'on peut vraiment parler de dramaturgie. D'ailleurs, on l'a bien vu, il y a des séquences. Dans ce projet-là, en tout cas, il y a une forme de dramaturgie qui se met en place. Et nous, en tant que scénographes, eh bien, on va attraper ça. On va aussi, donc ça passe par le texte. D'ailleurs, c'est un texte qui, en tout cas, entre les mains de Maude, était un texte plein d'envie. Je veux dire, c'était un texte vivant. C'est pas un programme sec. C'est quelque chose qui du coup vous transporte aussi, vous comme scénographe, comme un peu premier public finalement, premier visiteur du projet. Donc ça, c'est assez important. Et puis, texte qui s'accompagne d'une collection d'icônes, d'images, Et en l'occurrence, là, on avait affaire à un projet qui mettait en jeu une diversité d'images extraordinaire. Donc, bon, c'est pour ça que j'introduis avec cette scène de genre, là, amusante. Mais simplement, vous verrez à quel point c'était divers. Et ça, évidemment, nous, scénographes, ça nous nourrit. C'est-à-dire que quand on reçoit cette somme documentaire, là, comme introduction, comme mise en bouche, finalement, des plaisirs de l'exposition, ça nous aide énormément et ça sollicite notre imagination et on est beaucoup plus créatif, évidemment. Donc, ce que fait le scénographe, il fait quelque chose aussi d'assez particulier, finalement, c'est qu'il rend l'espace, il fait en sorte que le public, s'engageant physiquement, c'est-à-dire engageant son corps et ses sens dans un espace concret, il transforme l'espace en une véritable expérience cognitive. Alors ça, c'est tout à fait intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'écrivent pas, mais le métalangage de l'espace permet de transmettre des réalités tout à fait tangibles sur le sujet. Et vous verrez à quel point, ici, les décors, par exemple, ont tenu ce rôle fondamental. Ensuite, il nous semblait intéressant que notre projet rende compte de ce qu'on pourrait appeler une sorte de making-of, finalement, de la science en exercice. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est de faire en sorte, évidemment, que ce spectacle, on va dire, si on peut, appeler une exposition comme celle-ci, une exposition un peu spectaculaire, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ouvre la porte des labos, et elle montre bien qu'il y a des gens derrière tout ça. Et cette dimension incarnée, finalement, de la recherche, je pense que c'est aussi... l'un des rôles d'une exposition comme celle-ci. Et puis enfin, pour finir, évidemment, ont été présentés et d'ailleurs offerts à la manipulation par le public des données scientifiques. On verra tout à l'heure, Maud nous montrera un film qui montre qu'il y a aussi une part d'imaginaire qui est fondamentale dans l'appréhension de la réalité, on fait ça tous les jours, mais aussi évidemment dans l'appréhension du futur des sciences et de ce que ça peut donner, et des questions de restitution, etc. Et donc je pense que le projet scénographique devait être porteur de ça. Donc là, rapidement, mais très rapidement, je vais vous passer ces images, donc je ne vais pas les commenter, c'est simplement pour vous montrer à quel point on avait affaire à une des ressources iconographiques extrêmement différentes, quoi. Donc tout ça est présent dans l'exposition, et il était question évidemment de faire en sorte que tout ça s'articule de façon, pertinente, et extrêmement discursive. Alors, nous, en tant que scénographes, c'est vrai que tout à l'heure, François montrait des images qui ressemblent, qui sont presque les mêmes. Simplement, moi, je ne les vois pas de la même façon. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je ne saurais même pas dire si elles sont là, si c'est des sites gaulois, et ce n'est pas la question. Mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que finalement, on s'est rendu compte que les terrains de fouilles d'aujourd'hui ne ressemblent en rien à ceux de Schillmann, par exemple, quand il creusait à Hissarlik. Et donc, ça nous a aidé, nous, à nous débarrasser d'un certain romantisme, finalement, de la fouille, pour atteindre autre chose, c'est-à-dire au niveau des matériaux, des dispositifs, il y avait beaucoup de plastique, il y a des tentes, on abrite évidemment les lieux de travail, parce que sinon on prend l'eau toute la journée, et tout ça, ça nous a beaucoup intéressé. La présence, par exemple, d'ordinateurs ou d'outils électroniques sur site, je trouve qu'il y a une poétique formidable là-dedans. Dans l'idée du making-of de la science, on touche là à des formes de représentation intéressantes. Ça va, non ? Et puis les instruments de mesure. Alors, c'est vrai que les scientifiques, ils les utilisent tous les jours, donc ils ne sont pas dans la fascination des outils, forcément. C'est comme un menuisier qui utilise tous les jours la même scie. Et pourtant, moi, je trouve ça extraordinaire, parce que ces instruments de mesure, c'est ceux-là même qui vont nous permettre, de, par exemple, de concevoir des manipulations ou des actions au sein de l'exposition qui vont donner sens à des choses très absconses. Voilà. Alors, les instruments, comme vous les connaissez certainement mieux que moi, il y en a qui sont très géométriques. Et là, il y a une forme de plastique qui est tout à fait passionnante et que nous, on avait envie de mettre en jeu. Les relevés, par exemple, pour des gens qui dessinent comme nous, c'est formidable. Parce que pourtant, on sait bien à quel point ces relevés tentent d'être objectifs. Et ils n'en sont pas moins incroyablement esthétiques et formidablement composés. Et puis, il y a évidemment le vertige des réserves, de l'accumulation. Enfin bon, et là, c'est très mystérieux. Enfin bon, c'est Moulinsart. Et puis, enfin, une imagerie électronique qui, nous aussi, nous plaît beaucoup pour ces, ces aspects plastiques. Et puis on sait que les fausses couleurs, par exemple, c'est aussi des outils de mesure. Et donc ça permet de raconter des choses aux gamins. Il y a de très belles images, incroyablement plastiques, de microscopes électroniques, je crois. Et puis aussi, par exemple, cette poétique d'androchronologie, hein, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui permet de créer des outils de datation à partir de tranches de bois. Donc ça, c'est autant d'éléments qui méritent, je crois, d'être à un moment donné exposés au public comme des merveilles, enfin, je veux dire, comme des choses qui vont tout d'un coup rendre compte du monde d'une façon très, très complexe, très dense. Et puis dans cette exposition-là, on a aussi trouvé, et on en parlera tout à l'heure, tout un tas d'objets de collection, donc qui sont parfois des facsimilés, bien souvent d'ailleurs je crois, des facsimilés, et qui sont des objets très étonnants, parce que forcément, ils nous relient avec des Gaulois qui vivaient il y a 2000 ans. Alors très rapidement, là, je vais faire cette fois-ci le making-of de la genèse du projet pour vous montrer très vite des photos, de façon à ce qu'on puisse débattre de questions essentielles qui nous ont semblé intéressantes à poser ici, dans le contexte qui est le vôtre, là, à l'INP. Donc ça, les plans que je vous montre là sont des plans de l'esquisse, hein, c'est-à-dire au moment du concours. Donc là, à ce moment-là, l'équipe de scénographie n'avait pas été encore choisie. Et très vite, en fait, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on fait forcément sur tous les projets, on essaie de faire en sorte que, en l'occurrence, la structure en 5 séquences rencontre les réalités du site. D'ailleurs, ce n'est pas toujours facile d'expliquer à notre maître d'ouvrage, enfin, en tout cas à notre commanditaire, qu'il faut parfois que le site est plus fort, d'une certaine façon, que le programme. Je donne un exemple. Vous voyez donc sur cette image qui est derrière vous, c'est le rez-de-chaussée de l'exposition. On va entrer sur le côté gauche du plan par un espace qui n'est pas très grand et justement qui était souhaité plus grand dans le programme. Il a fallu qu'on fasse avec, mais qui permettait du coup de mettre en jeu l'ascension nécessaire par un escalier qui souvent est une espèce de temps comme ça qui ne compte pas dans l'exposition, on fait semblant qu'il n'existe pas cet escalier, et en fait réellement c'est une épreuve pour le public parce qu'il va monter de plus de 5 mètres. Et puis ensuite l'exposition va se dérouler à l'étage pour ensuite proposer au public de redescendre, et enfin sur la partie centrale que vous voyez là en arc de cercle, donc regardez le film dont Maud parlait tout à l'heure. Et voici le terrain de fouille à l'étage. Donc en fait, à gauche, on arrive du rez-de-chaussée, on traverse le terrain de fouille et on redescend par l'escalier qui est situé à l'opposé. Donc voilà pour les circulations et les enjeux spatiaux, je veux dire, du projet. Ensuite, donc, ce découpage en séquence, il me semblait que c'était intéressant d'aller jusqu'au bout. Cette radicalité, finalement, on pouvait l'accompagner par des formes scénographiques très, très différentes. Donc là, vous avez une coupe sur ce qui s'est appelé la galerie de portraits. Donc on va interroger ces stéréotypes sur le thème des Gaulois. Et puis, on va se retrouver dans une cage d'escalier que nous avons magnifiée comme un temps tout à fait important du parcours, qui va donc nous permettre d'accéder à ce terrain de fouille et qui, déjà au moment de l'esquisse, évidemment, était conçu comme une extraction, donc comme si on était allé quelque part dans le nord, qu'on avait pris une énorme machine à faire des carottes rectangulaires de 600 mètres carrés, et hop, on a pris un terrain et pof, on le pose. Donc ça, c'était l'idée d'extraire quelque chose d'extrêmement réel, mais vraiment très réel, de la vraie terre, et puis de le poser dans un espace qui est incroyablement high-tech. Enfin, vous connaissez tous la Cité des Sciences, c'est du verre, de l'acier. Et évidemment, cette confrontation-là, elle est souvent très spectaculaire. Donc c'était le résultat qu'on voulait essayer d'atteindre. Puis ensuite, deuxième idée, c'était de disposer au milieu de ce terrain, comme c'est le cas finalement sur des sites, eh bien, les laboratoires thématisés, comme vous l'avez compris. Et puis de faire en sorte que ces espèces de tentes ou d'abris, finalement, intègrent des expériences extrêmement diverses, corrélés évidemment aux champs scientifiques qui sont abordés à chaque fois, que ce soit aussi des observatoires finalement du terrain de fouille environnant. Et une fois cette expérience-là, là pour le coup très, très active de la question archéologique, on s'est dit que montrer, exposer les objets issus des fouilles, il fallait que ce soit là pour le coup une sorte de plongée à la fois dans les profondeurs du sol, dans les profondeurs donc des sépultures, en gros dans un espace totalement dématérialisé qui est un espace de pensée hein, puisqu'on y révèle aussi à cet endroit que les Gaulois ont une culture des mathématiques, par exemple, extraordinaire, qui a évidemment des dieux, tout un tas de choses. Et donc on s'est dit, bah, tiens, on va profiter de cet escalier, là, deuxième, le second qui permet de redescendre, eh bien, encore une fois, comme une expérience un peu fantastique. Donc autant, d'un côté, on proposait une ascension pour gagner l'espace de travail qu'est le terrain de fouille, autant là, pour redescendre, il s'agissait de s'enfoncer finalement dans, en plus, une forme finalement, comment dire, de restitution imaginaire, parce qu'elle aussi, elle est probablement un peu plus floue que d'autres réalités qu'on peut examiner, comme l'architecture dont parlait François tout à l'heure. Et cet espace-là, eh bien, dès le début, on s'est dit que ce serait pas mal que tout ça soit mis en abîme et que par le reflet. Par les reflets du mobilier, et puis aussi l'idée c'était d'extraire, hein, donc là c'est intéressant parce qu'il y a des objets vrais, enfin des objets authentiques, originaux, d'autres qui sont des copies, des facsimilés extraordinaires, d'ailleurs parfois plus vrais que nature, et on trouvait ça assez intéressant du coup de faire un troisième exercice en fait de traduction, enfin comment dire, d'exploitation de l'objet sous une autre forme, et là l'idée c'était de les agrandir, c'est-à-dire d'avoir une petite caméra qui viennent prendre ces objets et les agrandir démesurément, ce qui invite toujours le public du coup à les regarder différemment. Bon, finalement, ça n'a pas été fait sous cette forme-là, mais ça existe néanmoins. Donc il y a des projections, vous verrez dans l'exposition. À ce dispositif scénographique s'associe évidemment tout un ensemble en fait de parties prises sur sur les outils graphiques en fait de transmission des connaissances. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la poétique des instruments de mesure. Donc évidemment c'est souvent des repères orthonormés pour pouvoir resituer les choses. Mais on s'était dit aussi que là, peut-être, on pouvait tenter une exposition presque sans parole. C'est-à-dire que presque aussi efficace. Enfin, ce qu'on essayait de viser, c'est une efficacité qui pourrait ressembler à, par exemple, François est devant une photo qu'il a faite de son site. Et en direct, il nous explique pourquoi c'est pertinent de regarder en haut à gauche de l'image et pourquoi c'est pertinent aussi de regarder un peu plus loin. Voilà, en gros, une annotation presque en direct de l'affaire. Donc, on avait imaginé qu'un système de bande dessinée pouvait prendre en charge en fait une forme de médiation comme celle-ci. Donc on verra également que finalement ça a été abandonné, toujours pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais que voilà, enfin il en reste un peu, mais c'est devenu un système de pictogrammes plutôt qu'un système véritable qu'un langage proprement dit quoi. Et puis bon, après des déclinaisons évidemment sur la façon dont on ordonne les images, du coup sur les panneaux dans le cadre de pêle-mêle, comment est-ce qu'on titre les fameux laboratoires, comment est-ce qu'on confronte aussi des visions très différentes grâce à des outils qui transforment la perception qu'on a des objets, donc avoir l'objet dans sa gant quand on le récupère sur le terrain de fouille, dans le laboratoire, son relevé graphique, etc. Voilà, des index qui permettent de comprendre donc, d'une façon très déductive. C'est, hein, c'était l'idée aussi d'inviter le public à être un peu enquêteur. Hein, dans son... Et puis, par exemple, des grandes surfaces d'exposition qui permettent aussi d'interpréter les objets dans leur vraie dimension, c'est-à-dire travailler sur la notion d'échelle 1, on trouvait que ça était assez intéressant. Et puis, bon, après, tout ça se précise, évidemment. Donc, les plans deviennent de plus en plus complexes. Donc, si vous vous souvenez du précédent, là, vous voyez bien que finalement, l'entrée, c'est devenu une sorte de long couloir qui est vraiment jalonné d'éléments verticaux. Donc, les gens vont se glisser dans cette matière iconographique de la première séquence, bon, et ainsi de suite. Que le terrain de fouille se précise. Pareil, évidemment, pour les coupes. Donc là, vous retrouvez les éléments que j'ai décrits tout à l'heure. Les laboratoires commencent à prendre forme. Du coup, il y a des questions d'ergonomie extrêmement précises qui se posent. Donc il y a des normes handicapées, comme vous le savez. Donc tout ça demande, c'est pour ça que j'ai mis ces planches, là, d'ailleurs, un travail absolument considérable de détail pour que les manipulations, par exemple, soient effectivement accessible au public et que tout ça fonctionne. Et puis des maquettes. Bon, c'est vrai que nous, à l'agence, on aime bien travailler avec des maquettes, mais ça permet d'avoir des outils de conviviaux dans le process de création avec les gens du programme et aussi avec les scientifiques qui nous accompagnent. Et donc, du coup, ces maquettes nous permettent de rendre compte de l'avancée du travail. Je vous donne un exemple. L'élément central, là, qui est une espèce de très étrange construction qui est qui était entièrement habillé de noir là, sur la maquette. En fait, c'est un grumeau technologique à la Cité des Sciences, c'est d'énormes cabines d'ascenseurs, et puis des gaines de climatisation. Et c'est vrai qu'au départ, on avait imaginé qu'on pouvait les emballer dans un échafaudage avec des toiles en plastique, du coup, qui fassent référence à une archéologie aussi urbaine, parce qu'en fait, les sites gaulois, si j'ai bien compris, sont parfois dans un contexte urbain. Puis finalement, l'idée du site urbain a été abandonnée. Et donc, du coup, là, on a été obligé de trouver une autre solution, mais qui s'est avérée finalement très efficace, qui consistait à se dire, bon, très bien, on va isoler finalement ce carottage, ce site, dans un environnement totalement noir et mat, donc qui n'existe absolument pas pour un œil qui est forcément capté par les choses intéressantes de son environnement. Et on va faire pareil sur le bloc au centre. Donc ça, c'est des idées qu'on trouve au fur et à mesure aussi, que les contraintes varient, changent et évoluent. Bon, des maquettes, évidemment, des laboratoires. Et puis ça, c'est la maquette finale du projet. Et je vais juste vous montrer. Voilà, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le platelage que va fouler le public. Et c'est l'un des ingrédients essentiels de la crédibilité, en fait, du carottage dont je parle. C'est-à-dire que, en fait, on pense que si on met de la terre, ça va marcher. Les gens vont imaginer que la terre, elle vient du dehors. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place tous les éléments qui vont rendre finalement le dispositif extrêmement crédible. Et donc du coup, il a fallu faire plusieurs choses. Par exemple, en effet, se dire que la terre était partout dessous, c'est-à-dire que c'est bien un carottage de 600 mètres carrés qu'on a fait. Alors, évidemment, il n'y avait rien sous les platelages là, que vous voyez qui étaient foulés par le public, mais comme ça passait dessous et qu'il y avait une distance, en fait, les gens étaient persuadés que finalement ce terrain passait aussi sous leurs pieds. Première chose. La deuxième, c'était de se dire que tous ces sites, on les a vus dans les images, sont sous entre terre et ciel, quoi, hein, c'est-à-dire que la part du ciel est très importante. Bon, il se trouvait que sur place, il y avait moyen d'avoir un immense panoramique projeté, et donc on a fait filmer un vrai ciel de nuages en mouvement, donc qui bouge sans relâche. Et finalement, on aurait mis une photo, évidemment, ça n'aurait pas fonctionné de la même façon. Pourquoi ça fonctionne ici? C'est parce que quand vous êtes au contact avec ce terrain qui est en vraie terre, que vous avez l'impression qu'il passe sous vos pieds, et que dans votre champ de vision, il y a toujours ce mouvement incessant des nuages, eh bien, inconsciemment, vous reliez ces éléments et ça vous rapproche d'une fiction de réalité extrêmement tangible. Troisième élément, le son. Donc en fait, tout ça a été emballé dans une ambiance sonore d'extérieur, très simple. Donc on entend un peu de vent, etc. Un train qui passe au loin, avec la capacité vraiment de le faire transiter dans l'espace, hein, donc avec multiples sources qu'on pilote avec des appareils qui vont bien. Et puis notamment, donc le train, évidemment, il est diffusé très largement, mais les grillons ou les impacts de pluie qui interviennent à chaque fois qu'il y a un orage qui se déclare, parce que ça revenait aussi périodiquement et de façon totalement aléatoire, eh bien, les grillons et les impacts de pluie sont bien situés à vos pieds. Hein. Donc c'est cette minutie, hein, dans la restitution de l'idée d'un espace d'extérieur, naturel en pleine campagne, qui fonctionne et qui est à l'œuvre, hein, dans un dispositif comme celui-ci. Donc rapidement, on va survoler l'exposition. Je sais pas si
Vu, il y avait une promesse. En
oui,
fait.
Ça va.
Ce que je veux dire, c'est que quand arrive un dossier comme ça avec des planches, un projet qui est presque ficelé, on se dit, est-ce que ça va être possible? C'est-à-dire que la descente dans le monde du trésor était tellement forte. Enfin, il y avait un geste scénographique qui faisait que l'exposition était là. Et la crainte, c'était qu'on n'arrive pas et qu'on soit... Bah, qui m'avait raconté une promesse qu'il n'est pas tenue, tout simplement. Donc, voilà. Et vous allez voir, la promesse est tenue. Et on reviendra peut-être après sur l'idée de qu'est-ce que c'est que les parties prises dans les expositions et surtout comment ne jamais les lâcher pour arriver vraiment à un résultat abouti, en tout cas vers quelque chose. Après, on peut se tromper.
Donc là, ce que vous voyez, l'entrée de l'exposition, c'est les deux faces de cette même entrée qui, comme vous l'avez compris, d'un côté... Donc vous font plonger dans une imagerie donc qui représente tous ces stéréotypes qu'on va essayer de démonter. Et puis de l'autre, la sortie, c'est-à-dire revoir à travers des ouvertures réalisées dans cette grande paroi blanche là, les mêmes objets, mais évidemment avec cette connaissance acquise, enfin, ou plutôt ces éléments de connaissance qu'on aura glanés au fur et à mesure de son parcours. Hein. Donc d'une certaine façon, il y a une sorte de rebouclage qui était ambitionné. Voilà, et on va se glisser au milieu de ces tableaux. Donc, par exemple, au niveau, alors c'est devenu des tableaux, mais il y a plein de choses qui ne sont pas à l'origine des tableaux. Donc là, l'idée, c'était de connoté aussi l'idée des vieilleries, des oripeaux en fait, qu'on traîne comme ça, des avatars culturels dont on n'arrive pas à se débarrasser, et que finalement, connoter ça comme une galerie de vieilles croûtes, on trouvait ça plutôt assez intéressant. Et il y a donc du coup parfois des magnifiques boîtes de camembert hein, qui sont encadrées dans des cadres dorés, ou des timbres, ou bah, comme vous l'avez vu, des pochettes de disques de Salvador, d'Henri Salvador, mais qui lui est un type formidable. C'est le contenu qui fait foi, voilà. Et donc du coup, bah voilà, ça nous a permis de donner une grande homogénéité finalement à un grenier qui était quand même très très hétéroclite. Là, c'est une simple photo d'objets en pierre, quoi. Et puis ça, c'est l'ascension, donc dont je vous ai parlé, hein, de cet escalier. Et en fait, le rôle de cet escalier, bah, évidemment, c'est de transiter donc de cette galerie d'images au terrain de fouille. Et ce qu'on voulait, c'est trouver quelque chose qui nous permettait de faire cette transition de façon quand même assez neutre, mais il n'y avait pas de contenu finalement à apporter. Donc on a proposé à Maude, parce qu'on était tombé dessus incidemment, de faire quelque chose autour du nom des peuples. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans cet escalier, on s'est dit, tiens, il y a, alors je ne sais plus, c'est une soixantaine, hein, vous allez 60, voilà, 60 peuples gaulois qui ont des noms extraordinaires, quoi. Les Vaucons, les Sénons, les Bituriges, les Volques, les Atrébates. On trouvait ça, les médiomotrices, ce qui est quand même un truc incroyable. Donc il y avait une poétique aussi du son, hein, la musique des mots qui nous plaisait beaucoup. Donc on a proposé que cette ascension se fasse dans cet environnement-là, qui est purement graphique, que bon, les lampes qui éclairent ce dispositif translucide, un peu mystérieux, sont des lampes de chantier. Et puis il y a le son, c'est-à-dire qu'en fait, on est accompagné là dans le murmure assez sensuel d'ailleurs des noms de peuples qui tournent comme ça en boucle. Et on débouche donc sur ce sentier dont j'ai déjà beaucoup parlé. Donc là, on voit bien le platelage qui est posé sur cette terre qui file dessous. Et là, évidemment, ça a été un travail assez minutieux de reconstitution, hein, on peut appeler ça comme ça, donc qui a été fait évidemment sur des bases extrêmement rigoureuses et scientifiques. Peut-être que tu veux en toucher un mot.
Alors, c'est bon. Oui, alors en fait, c'est vraiment extrêmement minutieux, effectivement, parce que moi, au départ, j'avais quelques doutes sur le fonctionnement de ce sol qui apparaît, qui disparaît et compagnie. Et quand le décor a été mis en place et qu'il a fallu le peaufiner, là, on a entretenu tout le temps des discussions, des échanges, etc. Et donc, avec quelques membres de mon équipe, on a peaufiné un petit peu ce décor. Et en fait, on s'est très vite pris au jeu, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression vraiment de se retrouver sur un terrain archéologique. Notre contribution, en fait, elle consistait à redonner encore plus de véracité à cette scène, soit par le salissement, les traces de pas, les traces de brouettes, les traces d'outils qui sont notre quotidien. Et en fait, on a, en peaufinant encore davantage ce décor, je pense que c'est ce qui a frappé le plus les personnes, c'est de rentrer vraiment dans un terrain de fouille proprement dit. Alors c'était accentué par ce ciel où l'orage montant, les archéologues quittent subitement le terrain pour se réfugier, et donc les visiteurs découvrent cet endroit au moment où, juste après la pluie, où il n'y a encore personne, mais où tous les indices de fouille sont frais.
Alors il y a tout un tas d'items, ou je ne sais pas comment les appeler, propres à l'archéologie gauloise, qui sont déclinés. Et puis les ateliers sont totalement thématisés, comme vous l'avez compris, donc ils portent des grands titres. Et puis ils recèlent pas mal d'objets, des interviews, etc. Mais Maud y reviendra, ou alors au moins que tu veux le faire maintenant.
Non, je veux bien que tu dises un mot sur les objets, parce qu'en fin de compte, aussi bien pour créer la fouille, la fausse fouille, que la vraie fouille, parce qu'on a une vraie fouille dans laquelle les enfants jouent, endossent le rôle d'archéologue. Et on a donc fabriqué un certain nombre d'objets. Je veux bien que tu en dises un mot, parce que là, ouais, l'apport du cahier des charges de l'INRAP a été conséquent, et c'est toute une partie
alors,
qui est un...
Ouais, alors, il y a effectivement plusieurs objets. Il y a ceux du décor proprement dit, qui sont des objets de fouille, donc le théodolite, l'instrument de mesure que vous avez vu précédemment, etc., dont on a pris bien soin que ce soit des outils déjà utilisés de façon à ce qu'ils ne soient pas neufs et sortis de leur emballage. Hein. Idem pour les pelles, les balayettes et compagnie. Et il y a les objets dans les ateliers
qui sont visibles, touchables et manipulables par le public, ce qui est très important. Il y a ce besoin du toucher d'un objet.
Accessible
aux aveugles également. Et donc là, on est parti d'objets originaux gaulois. C'est un collègue, Stéphane Godefroy, qui a fait un cahier des charges extrêmement précis, décotation des objets, des mesures, des poids des objets, des modes de fabrication. Et cet ensemble de ce gros cahier des charges, qui fait 300-400 pages pour chacun des objets fabriqués, a été donné à des artisans spécialisés qui ont refait ces objets à l'identique. Et donc, c'est un réseau complet de personnes qui a été mis en œuvre, parce qu'un artisan qui fabrique une amphore n'est pas un artisan qui fabrique une épée gauloise. Donc, il a fallu s'adresser à un réseau extrêmement compétent et diversifié de personnes. De même, pour chacun des ateliers et chacune des manips qui se retrouvent à l'intérieur de chacun des ateliers, là, c'est le réseau INRAP et autres de spécialistes qui nourrissent l'archéologie qui ont contribué largement. On n'invente pas une manip sur la palynologie en claquant des doigts. Donc, c'est le discours d'un spécialiste extrêmement pointu, répété 10 fois, 20 fois, jusqu'à des interrogations, parce qu'on s'est amusé au jeu des interrogations. Dis-moi aujourd'hui ce qu'est la palino, t'as 5 minutes. Et jusque tant que le discours soit suffisamment fluide pour qu'il soit interprétable et en tout cas compris par tout le monde. Et donc c'est ce décortiquage, cette chaîne opératoire qui fonctionne. Mais c'est le même décortiquage que nous a proposé Pascal et Maud dans les différentes constitutions de l'exposition.
Alors, il y a évidemment dans un dispositif comme celui-là, on intègre toutes sortes de choses. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ergonomie, sécurité, etc. Puis aussi des grands espaces d'animation. Donc là, en l'occurrence, il y avait toute une surface qui était dévolue à, comme vous pouvez le voir, à des ateliers d'initiation à la fouille, avec du vrai sable et des faux objets.
Des vrais faux.
Là, voilà. Là, c'est donc on aborde ce deuxième escalier qui va nous permettre de descendre dans les profondeurs de cette salle, donc qui mesurait pas loin de 12 mètres de haut. Donc c'est quand même une fosse assez conséquente où on voit ces images suspendues et cet environnement totalement sombre et qui évidemment contraste très fortement avec la lumière quasi solaire du chantier. Et là, on a assez simplement mis en jeu des vitrines qui sont en fait faites avec de l'antelio, qui est un verre très réfléchissant, de façon à mettre en abîme les objets qui se répètent du coup à l'infini. Donc, il y a des effets comme ça très 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 étonnants, très impressionnants, qui accompagnent évidemment le changement des images, qui elles-mêmes sont projetées sur des tulles noires au même titre que les parois, donc qui donnent l'impression qu'elles sont en lévitation totale. Et néanmoins, malgré cette féerie du reflet, on voit bien que les objets sont parfaitement lisibles, parce que quand on est proche de ces objets, eh bien, on fait écran à ces reflets, et donc du coup, on perçoit les objets parfaitement, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, ça c'est un vase extraordinaire, un chaudron, qui est réalisé avec une technique qui est la galvanoplastie, une technique extraordinaire de reproduction d'objets qui sont faits en feuilles fines, de métalliques, et l'objet est plus vrai que nature, quoi, parce qu'il est tout simplement fait avec du même métal. Et alors ensuite, on va aborder, donc comme vous l'avez vu sur le plan, en fait, autour de cette grande fosse centrale où sont présentés ce qu'on a nommé un peu naïvement le trésor gaulois. Eh bien, il y a des cases. Enfin, on va aller chercher dans le creux. Alors là, on est presque dans les profondeurs de la terre. Des tombes d'un côté, et puis un petit spectacle dont Maud va vous parler sur le thème de Tintignac. Alors là, évidemment, reconstitution. Donc on a joué l'idée d'une fenêtre ouverte sur des excavations, enfin des tombes, et qui sont d'ailleurs basculées. Vous voyez qu'il y a une idée de... À partir du moment où on bascule, forcément, on en fait une sorte d'image, plutôt qu'une reconstitution réelle. Mais elle est bien en 3D. Et puis le retour, comme je vous l'ai expliqué, à travers les fenêtres duquel, eh bien, on va aller revoir les images... des stéréotypes de la galerie de portraits qui est située de l'autre côté. Et enfin, conclusion, enfin c'est pas tout à fait vrai parce que cette image-là, voilà, est juste avant, le film de restitution dont Maud va vous parler, je pense, un peu, non ?
Oui, très peu, mais c'est un film qui a été réalisé par les chevreaux suprématistes, Donc pareil, suite à un appel d'offres. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait une proposition qui était totalement, décapante, hein, avec un humour corrosif. Et c'est vrai que l'humour permet à des visiteurs, en fin de visite, ils ont 15 minutes pour se poser. Ils ont fait tous les ateliers. Et c'était une vraie pause pour pouvoir faire la synthèse de tout ce qu'on a vu dans cette exposition sur un mode qui soit humoristique, ce qui permet aussi de réfléchir différemment.
Simplement, peut-être pour rebondir un petit peu sur les chevreaux suprématistes, c'est un vrai parti pris qu'on a opéré. On a eu plusieurs propositions, dont certaines se rapprochaient du péplum ou des choses déjà vues. Leur projet présentait des risques réels, le traitement humoristique, la façon de le présenter, et puis on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup discuté sur ces différents aspects, et puis finalement on s'est dit on prend ce risque de les faire travailler. Alors c'est pour les commissaires et pour les collègues qui ont eu la gentillesse de m'aider dans cette aventure, c'est un nouveau travail parce que il faut réexpliquer tout à une nouvelle équipe qui vient se mettre en place après un an et demi déjà de travail effectif avec l'équipe déjà en place. Et finalement,
une validation finalement, des moindres séquences, des moindres vêtements, de tous les outils, du décor, des arbres, des fleurs, des pollens. Enfin,
la justesse est toujours respectée. Le but étant quand même d'enseigner quelque chose au public et non pas de lui faire repartir avec de nouvelles idées fausses. Quoi. Enfin, dans la mesure où nos recherches actuelles sont justes, ce qui sont forcément controversées dans 20 ans, mais ça c'est un instant, pour l'instant en tout cas, c'est ce qu'on pouvait montrer. Donc voilà, un pari un peu audacieux, mais finalement sans regret et plutôt réussi.
Bien, on arrive au terme de la présentation des photos de l'exposition. Et donc du coup, je vais passer la parole à Maud, là, qui va vous parler.
Non, on continue. D'accord. Là, je vais être assez rapide. Et je vais vous montrer des zooms qui sont davantage axés sur la muséographie, sur le savoir-faire qu'on a à la Cité des Sciences en matière de création d'artefacts. Étant donné qu'on n'a pas d'objet à présenter, souvent on invente des éléments d'exposition, on invente des supports de médiation qui ne remplacent jamais des objets, mais qui en tout cas sont des objets de médiation. Donc, j'y vais. Et ensuite, je vous passerai un petit film qui dure 2-3 minutes pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait à propos d'une cérémonie gauloise suite à un travail qui a été fait avec Christophe Maniquet sur le site de Tintignac. En s'appuyant sur les vestiges archéologiques, qu'est-ce qu'on a restitué en termes de spectacle, qu'est-ce qu'on a restitué en termes de fiction. Donc je vais reprendre par ici. Donc un des objectifs pour moi quand les visiteurs arrivent à la cité, c'est déjà qu'ils sachent où ils sont. Parce que la cité est tellement vaste, donc c'est vrai que là, le travail de Pascal a vraiment permis une immersion totale et on n'avait jamais le regard qui pouvait quitter le monde gaulois. On restait toujours dans le monde gaulois. Donc on arrive donc dans ce grand plateau central et sur ce plateau, on avait donc les 7 ateliers et ce qui me paraissait important vraiment pour les visiteurs, c'est qu'ils sachent qu'est-ce qu'on attendait d'eux, qu'est-ce qui va faire qu'ils savent pourquoi ils sont là. Donc, chaque atelier était titré par une question, dans quels habitats vivaient les Gaulois, donc une question sur le monde gaulois, et toujours une réponse qui était là, faire parler le paysage, faire parler les vides. Un autre atelier était, quels animaux élevaient les Gaulois, faire parler un os. Un autre atelier était, que cultivaient les Gaulois, faire parler une graine, faire parler un pollen. Et à travers ces 7 ateliers, on a pu vraiment reprendre la chaîne opératoire de l'archéologie et de ses métiers. Et donc, on s'est servi de ces métiers, ce que je vous disais, pour pouvoir décortiquer ce monde gaulois. Donc, vous voyez, tous les ateliers étaient sur le même mode, c'est-à-dire qu'on a dans chacun des ateliers, on reprenait toujours la collection de référence de l'archéologue. C'est-à-dire que là, c'est une collection de trous de poteaux, là, une collection de céramique, à côté, une collection de graines. Et systématiquement, dans chacun de ces ateliers, on a travaillé avec le graphisme pour que, dès que le visiteur rentre, il s'appuie sur, vraiment, la collection. Alors, les collections de référence pouvaient être uniquement graphiques, mais on a eu aussi la chance d'avoir de vraies collections d'archéologues qui nous ont prêté, par exemple, là, la collection des os. Donc, pour être archéozoologue, il ne suffit pas, bien sûr, de connaître une spécialité animale, mais de bien connaître beaucoup de spécialités animales. Donc, on avait les os de moutons, bœufs, cochons et cheval. Donc, l'idée, c'est vraiment que le visiteur comprenne le métier. Donc, à côté, pareil, une collection de céramique refaite suivant le cahier des charges donné, etc., qui permettait aux visiteurs de comprendre que les céramiques servaient à transporter, à verser, enfin, que chaque céramique avait un usage extrêmement précis. Et puis, chaque fois, le métier. Donc, l'INRAP a développé un film par métier. Donc, dans chacun de ses ateliers, on retrouvait l'image du spécialiste. Et enfin, ce que j'appelle, je dirais, un des savoir-faire donc, de la cité, c'est de faire des jeux qui soient souvent surdimensionnés, des jeux qui sont faits pour échanger, pour collaborer, et qui ont l'intérêt, bien évidemment, de mettre en avant un message et d'être le plus proche du message. Et là, en l'occurrence, on avait 4 pulses de poterie. Les visiteurs vont se souvenir qu'ils ont fait des pulses, ils vont se souvenir d'un décor. Ce décor, non seulement ils le trouvent dans cet atelier, mais ils le trouvent dans la première galerie de portraits et ils vont le trouver aussi dans le trésor. Donc il y a cette idée aussi où dans chaque élément, dans chaque atelier, on met des choses qu'on va répéter, mais sous une autre forme. Alors, pourquoi prendre le jeu ? Parce que le jeu, en fin de compte, qui n'a jamais joué ? C'est-à-dire que le jeu, en lui-même, déjà, il y a un gain. Il y a l'idée de comprendre un mode d'emploi et de se dire, tiens, il y a quelque chose à gagner, il y a un enjeu, il y a un challenge. Et à la cité où on accueille souvent un visiteur avec des enfants, il y a vraiment cette idée de créer une relation, une interaction qui se joue sur le sujet de l'élément, sur le propos, mais aussi, bien sûr, dans la mise en œuvre qui est souvent physique. Donc là, je vous ai pris des éléments d'exposition qui avaient beaucoup de succès, c'est-à-dire que le premier que vous voyez où on voit 4 maisons gauloises, donc déjà, on enterre l'idée de la hutte gauloise, on s'aperçoit que les maisons sont structurées, ont des poteaux, c'est des poteaux qui ne sont pas ronds, qui sont équarris. Et donc là, on demande aux visiteurs ils ont des plaques vertes, comme vous pouvez voir, et en fin de compte, on leur demande de regarder tout simplement cette plaque et de se poser la question de savoir ces trous de poteaux, à quelle structure ils correspondent. Ensuite, l'élément là que vous voyez en bas s'appuie directement sur les dessins que nous avait fournis François, puisque là, c'est où se construisaient les villes gauloises et où étaient installés les Murus Gallicus. Donc là, les visiteurs prenaient les petites choses jaunes et oranges et devaient les positionner aux endroits stratégiques. Donc, avec ces manips, avec cette façon de ne jamais être mis en échec par une consigne qu'on ne comprend pas ou par une machine qui ne marche pas, je pense qu'on renforce une idée au visiteur qu'il sait faire, il a compris, il est capable de transmettre. Et je pense qu'il repart avec une image, un plaisir d'avoir su faire et de pouvoir partager, qui est extrêmement importante pour les visiteurs de la cité. Voilà, idem. Donc, on avait pareil avec des os, on avait des vrais faux os. Et l'objectif, c'était d'essayer de comprendre, comme un archéologue, comme un archéozoologue, quels sont les signes, les stigmates sur l'os, les marques qui permettent de connaître l'usage de l'animal. Est-ce que c'était un animal qui a servi pour être nourri ? Est-ce que c'était un animal qui servait pour cultiver la terre ? Donc, en fonction des os et de l'affaissement de certaines parties, il y avait cette possibilité-là. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on a envie de mettre en scène ces éléments, c'est du jeu, c'est ce qui va permettre une appropriation intellectuelle, une appropriation cognitive, et pareil, je dirais, on fait pareil pour les films, parce que les visiteurs ne sont pas là pour vivre, de voir un film, des films, ils peuvent en voir chez eux, peuvent en voir au cinéma. Donc notre idée, c'est par exemple, avec ce film que vous voyez, là, le visiteur, on voulait tout simplement montrer aux visiteurs les traces du monde gaulois jusqu'au décapage intensif en 2012. Donc, tout simplement, là, le visiteur tourne une manivelle et remonte le temps. Et donc, à chaque séquence, on voit, donc, il peut arrêter la manivelle et s'arrêter sur le temps. Et l'idée, c'est tout simplement qu'il fasse le lien entre des trous de poteaux et des archéologues en 2012. Alors, dans ce magnifique espace, bien évidemment, je tenais à ce qu'il y ait des jeux de rôle. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, ils portent un gilet qui est à leur taille. Il y a marqué recherche archéologique, il y a marqué INRAP, Cité des sciences. Donc, c'est vrai que ce qui s'est passé est extrêmement intéressant parce qu'en fin de compte, autour, les parents regardent, les grands-parents, les accompagnateurs. Et là aussi, il y a un sentiment de fierté parce que quand on a fait des évaluations, on s'aperçoit que c'est un des éléments phares de l'exposition. Les adultes sont très satisfaits de voir leurs enfants ou leurs petits-enfants qui sont dans une situation quasi d'apprentissage ou quasi d'école et qui savent répondre aux questions. Il y a un sentiment, là encore, de fierté, de partage qui fait vraiment que ça marche. Alors que c'est bien évidemment une usine à gaz à monter dans une exposition, comme vous pouvez vous en douter. Parce que ça nécessite du monde, ça nécessite des gens toute la journée. On ne peut pas accueillir beaucoup de monde à l'instant T. Donc on pouvait accueillir 30 personnes toutes les 20 minutes, donc il y avait des soucis parce qu'il y avait des personnes qui venaient exprès pour ça. Voilà. Donc c'était une difficulté, mais je pense que c'était vraiment un des points forts en tout cas de cet espace.
Tu permets simplement pour revenir sur la fouille directement in situ, ça nécessitait aussi de former les animateurs à la fouille proprement dit, de façon à ce que le discours qui soit tenu aux enfants soit le plus juste possible. Donc sur la méthode de fouille, la découverte, comment on fouille, ne pas sortir, ne pas essayer d'arracher l'objet, etc., etc. Et les objets qu'on avait placés dans ces éléments de fouille sont des copies aussi quasiment à l'identique des objets qu'on retrouve dans les ateliers également. Donc là aussi une répétition des morceaux de fer qui renvoient à l'atelier métallurgie, des morceaux d'os qui renvoient à l'atelier faune, des graines qui renvoient à l'atelier carpologie. Donc toujours cette démarche d'enquêteur miniature. Et le grand plaisir, en fait, c'était que les enfants, au lieu de réclamer le traditionnel casque à cornes à la sortie de l'exposition, ont réclamé le costume de l'archéologue, c'est-à-dire le gilet orange et le casque blanc, ce qui est un grand plaisir pour nous.
Troisième partie, alors là, je voudrais attirer votre attention parce que je crois que beaucoup sont conservateurs ou élèves conservateurs. Et donc, à la Cité des sciences, on n'a pas de conservateur du musée. Et donc, on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir accueillir ces objets, ça a été un travail de très longue haleine. On n'était pas du tout pris au sérieux par les collègues des musées. Peut-être parce qu'on n'a pas de collection d'objets, mais en tout cas, ça a été un travail considérable pour pouvoir, pour qu'on ait ces objets. Et bien souvent, on n'a eu que des copies ou des artefacts, enfin des facsimilés. Pour ma part, ça ne me dérange pas, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien discuter avec vous de ça. Donc, il y a eu, comme vous avez vu tout à l'heure, le chaudron de Goudenstroop, le calendrier de Colline, qui sont des facsimilés. Mais même certains musées qui avaient les pièces et qui ne les utilisaient pas, je ne donnerai pas de nom, ne nous les ont pas prêtés. Voilà. Donc, on a eu vraiment un vrai souci. Alors, c'est vrai qu'on n'était pas spécialiste du monde gaulois, et peut-être qu'on ne correspondait. La cité, ne correspondait pas à l'idée qu'on pouvait se faire de présenter une exposition sérieuse sur le monde gaulois, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est joué là-dessus. Donc ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était aussi donc sur les ateliers, vous avez vu, on avait toujours atelier fouille, et là, on avait trésor, et là, l'idée, c'était aussi de contextualiser ces tombes. Donc, tout à l'heure, Pascal parlait de dramaturgie. On s'est interrogé d'abord si on faisait des tombes entre guillemets fraîches ou des tombes retrouvées telles quelles. Donc on est parti sur l'idée de tombe fraîche et l'idée c'était vraiment de faire une vraie dramaturgie, c'est-à-dire qu'on rentrait dans un espace où on avait ces quatre tombes et dès qu'on s'approchait, parce qu'il y avait tout simplement un capteur de présence, la tombe murmurait à l'oreille et racontait qui elle était. Donc cette tombe-là, c'était celle d'une esclave. Donc on avait deux tombes incinérées et deux tombes inhumées. Celle-ci était celle d'un artisan. Non, je me trompe. Celle-ci, c'était la tombe. Non, c'est celle d'un artisan. Celle-ci, c'est la tombe d'un aristocrate où on voit bien donc le demi-cochon qui était offert aux dieux avec d'autres pots qui permettaient de présenter des graines. Voilà. Et puis il y en avait une quatrième, mais j'ai pas. Là. Et puis, je dirais que le clou de l'exposition, la force de l'exposition, un des points majeurs, c'était de présenter ce trésor de Tintignac, qui est vraiment un trésor. qui est donc qui a été une fouille INRAP de 2002 qui a été faite par Maniquet. Et donc dans ce à Tintignac, ils ont retrouvé dans une fosse 50 épées pliées, des casques, un cheval en fer, des épées, des imbeaux, enfin vraiment un vrai trésor, une vraie malle comme ça dans laquelle se trouvaient ces objets totalement emblématiques de la société gauloise. Et c'est vrai qu'à la vision de ça, je me suis dit, on ne peut pas se contenter d'exposer ces objets tout seul. Il faut qu'on essaie de donner du sens. Et c'est ce qu'on va, je vais vous montrer là. Donc ça, c'était donc la fouille telle qu'elle a été trouvée. Ça, ce sont les objets tels qu'ils ont été restaurés.
Les vrais.
Hein, les vrais, des vrais. Là aussi, ça a été sans l'apport du ministère de la Culture, j'ai oublié de le dire, qui était partenaire de l'exposition. Oui. On n'aurait pas eu ces objets. Il ne serait jamais monté de la Corrèze à Paris, si on peut dire. Voilà, donc je vais vous montrer la cérémonie gauloise. Hein. Je ne vais pas vous la passer en entier parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est un travail qui a été réalisé par un artiste, par deux artistes, s'appelle Renaud Chabrier et... Renaud Chabrier. Et qui a la capacité, je dirais, à animer des images. C'est un artiste, il est par ailleurs polytechnicien. Et il s'est emparé de cette cérémonie gauloise avec beaucoup de force. Là, pareil, c'est vraiment Christophe Maniquet a passé beaucoup, beaucoup de temps à lui expliquer comment c'était, enfin, comment ils ont trouvé les objets et qu'est-ce qu'il voulait dire. Et là, je dirais que c'est peut-être parce qu'on était à la Cité des Sciences qu'on a pu se permettre de faire cette fiction. Mais qui est une fiction qui s'appuie vraiment sur la réalité, sachant que c'est une fiction parce que, bien évidemment, c'est une fiction temporelle. Ce trésor qui a été trouvé, on ne sait pas s'ils l'ont déposé sur plusieurs centaines d'années. On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas comment se passaient les banquets. Donc, nous, on a donné une interprétation à tout ça. Alors, est-ce que j'ai 5 minutes ou c'est trop long, 5 minutes ?
Non, mais lance-le, ouais.
Ouais, je le lance, mais sinon, je peux le couper. Non. D'accord. Donc ça s'appelle la dernière cérémonie.
Il y a trop de lumière.
On peut éteindre un petit peu la lumière. Vous voyez bien. C'est-à-dire que là, on a trouvé les carnix. On a travaillé avec une musicologue qui a pensé que peut-être il pouvait jouer du carnix comme ça à l'ouverture de cette cérémonie. On a aussi interprété les rôles. Hein, c'est-à-dire qui porte les casques, est-ce que ce sont des druides, est-ce que ce sont des magistrats, est-ce que ce sont des hommes politiques, donc, parce que ce casque a été vraiment trouvé, le casque signe. Alors, il y a peu d'écrits sur les fêtes gauloises, hein, donc c'était vraiment une fiction, mais qui s'appuyait sur les vestiges archéologiques, mais aussi sur Bibracte, hein, qui là aussi a un sanctuaire. Donc on a interprété le banquet parce qu'on a souvent vu les Gaulois comme des sanguinaires qui faisaient des sacrifices humains. Donc là, pareil, en travaillant avec les archéologues, on a donné quelque chose qui est une hypothèse qui est au moins aussi plausible que l'autre. Et comme on est proche des sociétés romaines où il y a aussi des épopées, où il y a aussi des combats, on a intégré ces combats, l'épopée, dans ce... Ben voilà, on y arrive.
Alors là, simplement aussi, l'iconographie n'est pas un hasard. Hein. Le personnage dessiné, c'est un personnage qu'on retrouve sur les monnaies gauloises. Donc il y a effectivement une part de rêve dans cette projection. Mais il y a le couteau de sacrifice et des couteaux qu'on retrouve régulièrement. Donc il y a aussi tout ce qu'on a pu mettre de vrai se trouve dedans, plus la part de l'imagination et de la poésie.
Et bien sûr, les chevaux, ils nous les ont refait faire plusieurs fois, parce qu'à l'époque gauloise, les chevaux étaient trapus, petits. Donc on ne pouvait pas imaginer qu'ils soient sur des grands chevaux. Donc en fin de compte, chaque séquence, chaque scène a été validée. Là, il y a une projection directement sur la maquette qui donne cette idée de mouvement des personnages.
C'est,
ça, c'est le relevé archéologique hein, de Christophe Manicam. Oui. C'est vrai que de faire appel à Renaud Chabrier, je vous avais vu, il n'y a pas de parole. C'est uniquement le dessin qui parle. Donc ça laisse aussi une part à l'imaginaire, donc aussi à une interprétation. Ça évite de fixer et de figer des images. Mais ça, le principe narratif, quand même, fonctionne bien malgré la non-parole. Enfin, on ne voulait surtout pas d'une œuvre qui soit explicative et qui raconte.
Voilà. Bien, merci.